pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, l'eau est vitale non seulement pour abreuver notre corps qui ne peut pas s'en passer plus de 3 jours, mais aussi pour cultiver, nous laver, cuisiner. Je ne vous apprends rien en vous disant cela, mais c'est important de le rappeler parce que malgré cette évidence, l'eau intéresse finalement peu de monde. Il suffit de regarder le niveau des investissements dans ce secteur dans la plupart des pays. Vérifiez, vous serez effarés. Pourtant, la moitié de l'humanité vit dans des zones où l'eau est une ressource rare, au moins un mois par an. Et les prévisions sont dramatiques parce qu'avec la croissance démographique et le changement climatique, eh bien oui, ça se complique. C'est donc avec intérêt que nous avons suivi la semaine dernière la journée sur l'eau organisée à l'occasion des Montpellier Global Days Africa. 4 jours de débat autour du thème « soigner, nourrir, protéger », 3 verbes qui s'appliquent à la ressource précieuse qu'est l'eau. Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Éric Servat.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD et directeur du tout nouveau Centre international de recherche sur l'eau de l'UNESCO, qui a un nom un peu barbare, si je puis dire. C'est le, comment on prononce, le IC Reward.
Ah, c'est parfait.
Bien, j'ai déjà une bonne note. Alors, expliquez-nous en quoi ce centre de recherche est exceptionnel.
Sous de nombreux aspects, il est absolument exceptionnel, mais peut-être plus sérieusement, je pense qu'il a une dimension très particulière qui essaye celle de la plurie et de l'interdisciplinarité. Et aujourd'hui, lorsqu'on souhaite aborder les vraies questions en matière d'eau, et en particulier en matière de ressources en eau, il faut être capable de mettre autour de la table l'ensemble des compétences et l'ensemble des domaines scientifiques. On ne peut pas se contenter finalement d'avoir une approche qui serait par exemple une approche très modélisatrice, très science dure. Et à l'inverse, on ne peut pas non plus se contenter d'avoir une approche qui serait, par exemple, purement sociologique. Il est indispensable de mettre autour de la table toutes ces compétences, depuis les sciences dures jusqu'aux sciences humaines, jusqu'aux sciences sociales. Et finalement, à Montpellier, nous avons la chance d'avoir suffisamment de laboratoires et suffisamment de scientifiques dans ce domaine des sciences de l'eau pour être capable précisément de traiter les questions autour de l'eau, les verrous que nous avons devant nous sur le plan scientifique et les enjeux qui sont face à nous, avec cette capacité à rassembler toutes les compétences et tous les domaines qui nous permettent donc d'avoir cette approche interdisciplinaire qui est aujourd'hui essentielle.
Alors, pour que l'on comprenne l'ampleur, il y a plus de 400 chercheurs, c'est ça ?
Il y a 400, à peu près 400 scientifiques, effectivement, qui sont, et 150 doctorants, qui sont issus de 17 laboratoires. Et nous avons le soutien de 13 établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche. Donc, c'est la structure dans le domaine de l'eau la plus importante et la plus structurée au niveau national. Et ça compte aujourd'hui, ce centre compte parmi les 3 ou 4 plus importants dans le contexte de l'UNESCO au niveau international.
Alors vous le disiez, c'est essentiel de faire de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de parler un peu avec différentes casquettes de ce sujet de l'eau, parce que les défis actuels sont énormes dans ce domaine.
Oui.
Enfin, il faudrait 4 heures, mais en 2 minutes.
Oui, les défis sont énormes. Et finalement, vous l'avez mentionné vous-même dans votre introduction, c'est vital. C'est quelque chose qui est transversal absolument. Chaque citoyen, chaque activité est impacté par la problématique de l'eau. Et finalement, quand vous ajoutez à ça le changement climatique qui va avoir un impact et qui a déjà un impact fort, mais ça va s'accentuer, tant sur la ressource que sur le risque hydrologique. Vous ajoutez à ça la croissance démographique. Vous ajoutez encore l'urbanisation de nos sociétés, qui est une tendance lourde. En 2050, 70% de la population dans le monde vivra en milieu urbain. Vous avez là des facteurs qui sont des facteurs considérables.
Alors, pour parler de cette ressource en eau, vous n'êtes pas venu seul, Éric Serva. Vous êtes venu accompagné de trois femmes que je vais présenter tout de suite. Sylvie Adot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université Abomey-Calavi au Bénin et responsable de la chaire UNESCO Femmes, Sciences et Gestion raisonnée de l'eau en Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que c'est une chaire UNESCO et quel est le rôle de celle que vous dirigez ?
Merci. Je ne dirige pas la chaire, mais je suis la coordonnatrice adjointe de cette chaire. La coordonnatrice est professeur Glito de l'Université de Lomé. La chaire UNESCO Femmes, Sciences et Gestion durable de l'eau est une chaire constituée de des femmes scientifiques de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le Bénin, dont je suis originaire, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger. Ce sont des femmes universitaires qui se sont organisées en association et ont créé la chaire UNESCO pour traiter les problèmes d'eau, et d'environnement et de santé. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place un master international environnement, eau et santé, pour former des techniciennes qui pourraient accompagner les femmes rurales dans les problèmes d'accès et à l'eau et à la qualité de l'eau. Et tout à l'heure, Éric parlait de transdisciplinarité, pluridisciplinarité. Et dans cette chaire-là, on recrute des jeunes de profils très différents, des juristes, des médecins, des agronomes, plusieurs profils pour tous aborder la même thématique qui est l'eau.
Et alors, pourquoi des femmes en priorité ?
Pourquoi des femmes en priorité ? Parce que la gestion de l'eau incombe un peu partout à la femme. C'est la femme qui utilise le plus l'eau. Et d'ailleurs, on a eu des expériences qui ont montré que ce sont les femmes qui gèrent mieux les sources d'eau mises dans les villages. Lorsqu'on confie cette gestion-là aux hommes, ça pose un peu de problème.
Donc, vous êtes prudente dans vos propos.
Oui, donc c'est pour ça que la chaire a opté non seulement pour accompagner les femmes dans la gestion de l'eau, mais aussi former des femmes pour accompagner les femmes. Et c'est très important.
Oula Amrouni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en géologie à l'Université de Carthage, en Tunisie. Et vous êtes aussi la coordinatrice de projet UNESCO. On parle beaucoup d'UNESCO dans cette émission, sur les zones humides en Afrique du Nord. Alors, en quoi consistent ces projets ?
D'abord, je vous remercie pour cette invitation qui nous a réunis autour de ce Global Days événement. Donc, moi, je porte la double casquette. Je suis d'abord chercheuse à l'Institut national des sciences et technologies de la mer à Carthage. Et je suis aussi la co-coordinatrice de la session éco-hydrologie, donc portée par le programme UNESCO Water. Et en fait, c'est un programme qui essaye de financer les manifestations qui encouragent les jeunes, les scientifiques, la formation diplômante à assister sur un même thème. Par exemple, éco-hydrologie, c'est les zones de transition, continent-mer. Donc ça, c'est nouveau comme terme. Ça englobe les zones côtières, les zones humides, les lagunes, les sépras. Les sépras, ce sont des lagunes qu'on retrouve asséchées dans les zones arides. Ça, c'est un terme technique. C'est des étangs qui s'assèchent et deviennent salés. Et pendant les saisons de pluie, elles sont remplies d'eau. Ce sont des niches écologiques pour les oiseaux migrateurs. C'est en Afrique, ça, c'est typiquement climat aride. Donc, ça, c'est une... C'est un poste juste pour avoir un petit peu cette expérience de l'UNESCO, d'accord ? Parce qu'on est pluridisciplinaire, comme dit Eric. Donc, il y a des géologues, des hydrologues, de la socio-économie. Toutes les sciences sont réunies autour du thème de l'eau. Mais vraiment, on est centré dans les zones côtières. Donc, toute l'Afrique, même dans le monde. Hein. Donc, 80% de la population mondiale habite dans les 100 km à côté de la côte. Mmh. C'est ce qu'on définit comme littoral.
Voilà, et c'est une zone très, très vulnérable.
Absolument.
On en parle souvent dans cette émission. Et Fatima Toussal est aussi avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre de l'équipe de recherche sur la gouvernance des territoires de l'eau à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et vous êtes présidente de l'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Parce que les jeunes professionnels ont une vision différente des vieux.
Je ne dirais pas une vision différente, mais quand on parle de jeunes, on s'attend à ce qu'il y ait innovation. Et quand on parle de l'Afrique également, forcément, on parlera des jeunes parce qu'ils constituent la couche de la population la plus importante. Et là, on discute de l'eau, on discute des problèmes de développement. Parler de développement, c'est parler de l'avenir. Donc, parler des jeunes, et en ce sens, donc les jeunes ont leur mot à dire par rapport à tout ce qui est politique de développement, par rapport à tout ce qui est politique de l'eau. Et en ce sens, nous avons créé cette association pour impulser la contribution des jeunes dans la gouvernance du secteur de l'eau, qui est un secteur vraiment crucial pour le développement du continent africain, du Sénégal notamment.
Et alors du coup, quelles sont les thématiques principales que vous abordez ?
Alors, dans le cadre de l'association, nous travaillons sur trois axes majeurs, tout ce qui est recherche, innovation, éveil technologique. Aujourd'hui, on a un peu abordé, il y a beaucoup de défis par rapport à l'eau. Et en ce sens, donc, il y a besoin d'impulser la recherche, de travailler par rapport à l'innovation. Et en ce sens, les jeunes doivent apporter leur contribution. Donc, nous menons beaucoup de travail en ce sens au niveau de l'association par la conduite de projets de recherche, de l'accompagnement des jeunes pour porter des innovations.
Comme quoi, par exemple?
Alors, en termes de recherche, nous faisons des recherches sur la valorisation des bouts de vidange, sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable au sein des communautés, sur des thématiques phares comme eau et santé. En termes d'innovation, ce que nous faisons, c'est l'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment par des sessions de formation, la recherche de partenaires pour les jeunes porteurs d'idées de projets, pour les jeunes scientifiques. Alors, on parle de recherche. C'est un volet assez important, mais parler de développement également nous amène à parler de comportement. Et en ce sens, nous travaillons sur l'éducation au développement, à la citoyenneté et à l'hygiène, en sensibilisant les communautés sur les bonnes pratiques, mais également en sensibilisant les plus jeunes à embrasser les formations et les métiers du secteur pour pouvoir relever ces défis. Et le troisième axe sur lequel nous travaillons porte sur le renforcement du leadership. On fait beaucoup de plaidoyer pour une bonne prise en compte des jeunes dans les processus de décision, mais il ne s'agit pas de faire représenter les jeunes simplement. Il faudrait que les jeunes viennent avec des propositions. Et en ce sens, donc, cet axe vise à les renforcer en termes de compétences, mais également à les doter de tous les outils nécessaires pour pouvoir participer au dialogue sur le secteur de l'eau à travers des sessions de formation, à travers des sessions de mentorat.
Alors là, comme vous avez une audience large, puisque vous avez un micro RFI devant vous, si vous deviez donner un conseil justement d'hygiène ou de bon comportement par rapport à l'eau, vous diriez quoi ?
Dans ce contexte de pandémie, je crois que le premier conseil qu'on donnerait, c'est le lavage des mains. Et on parle de lavage des mains. Et en ce sens également, il y a une autre dimension à considérer, c'est la question du gaspillage de l'eau. Il ne faudrait pas gaspiller l'eau parce que c'est une ressource vitale, comme vous l'avez dit, mais également c'est une ressource rare, malgré ce sentiment qu'on ait que voilà, l'eau est disponible parce que surtout en milieu urbain, il nous suffit juste d'ouvrir le robinet et de voir l'eau qui coule, mais il faut considérer que c'est une ressource rare. Il faut se laver les mains, mais il faut également préserver la ressource.
On a bien compris, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et la préservation de la ressource de l'eau sont des enjeux majeurs. Le changement climatique complexifie tout ça. On en parle juste après ça. Togola Itadi, Peace and Freedom dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons des enjeux de l'accès à l'eau aujourd'hui, un des thèmes abordés la semaine dernière lors des Montpellier Global Days Africa. Nous sommes d'ailleurs à Montpellier pour enregistrer cette émission bien installée dans les locaux du campus du CIRAD. Alors pour comprendre la galère quotidienne que représente l'accès à l'eau dans de nombreuses villes du monde, je vous propose de nous rendre à Lomé au Togo sur un forage privé sans lequel les habitants n'auraient pas d'eau. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
Je suis en train de puiser de l'eau. Oui.
Je vous ai déconcentré là, c'est pour ça que l'eau s'est renversée.
Oui, oui, c'est à cause de vous.
Ah, je suis désolée. Vous venez ici tous les jours?
Oui, tous les jours.
Vous prenez combien de bassines?
4, ça, 50 francs.
50 francs les 4 bassines?
Oui.
Elle vous sert à quoi, cette eau?
On prépare avec ça, on se lave avec ça, on boit ça aussi.
Et si vous venez ici, c'est parce que vous n'avez pas d'eau chez vous?
Oui, c'est un peu loin aussi. Ça nous rend fatigue aussi, oui.
Et vous portez cette bassine d'eau sur votre tête, c'est lourd, non?
C'est lourd. Au moins, on peut faire 4 fois, mais pas plus que ça. Comme c'est loin, là. Oui.
Après, ça fait mal au cou, non?
Oui, ça fait mal au cou. Au niveau d'ici aussi, ça fait mal.
Bon, je vais vous laisser repartir parce que vous avez encore des allers-retours à faire.
Oui, il reste une fois. Oui.
Merci, madame. Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, vous êtes la vendeuse d'eau?
Oui.
Et ce forage, c'est à vous?
Non, c'est pas pour moi. Moi, je suis, on m'a pris que je vends l'eau à l'agence.
C'est votre travail, quoi?
Oui.
Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici, du quartier?
Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent ici.
Et c'est toujours les femmes qui viennent chercher l'eau?
Il y a les garçons, les petites filles.
Donc il y a des petites filles qui viennent avant d'aller à l'école chercher, oui, de l'eau dans des petites assiettes?
Oui, ils viennent puiser de l'eau pour laver, pour aller à l'école.
Merci, madame.
Merci.
On va aller voir maintenant un vendeur d'eau pour comprendre comment on creuse un forage. Et on va rentrer dans cette maison là, un tout petit peu plus loin.
Je m'appelle Jean Eclou Amégan.
Nous sommes dans quel quartier de Lomé ici?
Ici précisément, c'est Tochigan.
C'est où dans la ville?
Ça, c'est au nord-est de la ville.
Est-ce qu'il y a de l'eau potable qui arrive jusqu'ici?
Pas dans toutes les maisons. Par exemple, sur la ligne là, il n'y a pas la régie. Le tuyau de la régie n'emprunte pas la voie du tout. Donc la plupart qui sont sur la ligne, beaucoup ont fait le forage pour pouvoir se satisfaire, si vous voulez.
Donc vous avez fait un forage, ça coûte combien un forage?
Tout réuni, il faut 1 400
000. Il va chercher l'eau à quelle profondeur votre forage?
Chez moi, le minimum ça fait 49 mètres.
Donc ça vous sert pour vous, votre famille, et puis devant vous avez un robinet, parce que du coup vous vendez l'eau.
Oui, nous vendons dans l'eau pour les amis du quartier, parce qu'il ne faut pas parcourir des kilomètres avant de l'obtenir. Voilà.
Et c'est comme ça que vous vous remboursez un peu des frais que vous avez eus?
Les frais, surtout quand la machine va tomber en panne, et ensuite les frais d'électricité, oui.
Et ça vous suffit donc ce puits pour vous, votre famille, et pour vendre l'eau? Il y en a toujours?
Il y en a toujours, il y en a toujours.
Et il y a beaucoup de gens qui viennent vous acheter de l'eau?
Le mal, c'est que chez moi, il y a celle-là aussi qui vend.
Le voisin?
Le voisin, puisque nous avons fait le puits ensemble.
C'est la concurrence, quoi?
Voilà, exactement. C'est la concurrence.
Et est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui existe, qui interdit les forages privés comme ça, et que le gouvernement a l'intention de faire appliquer cette loi?
Est-ce qu'il peut l'appliquer? C'est la question, parce que toutes les familles ici souffrent d'eau. Et si nous arrivons à faire un forage, maintenant l'État va se présenter pour dire que ouais, je vais vous pénaliser, je vais faire ceci, cela. Alors c'est difficile.
Parce que l'État considère que l'eau est une ressource économique pour lui aussi.
Si c'est une ressource économique, il fallait faire passer la régie, passer le tuyau, et nous allons fermer nos forages, s'il le veut ainsi.
Donc si l'État fait appliquer cette loi, ça va être la révolution à Lomé.
Ah ben, moi je verrai celui qui viendra me demander, je ne serai pas d'accord. J'ai fait un prêt pour pouvoir faire ce forage, vous imaginez?
Les gens pourraient se soulever pour ça?
Pour ça, oui. Les gens, je ne serai pas le seul. Normalement, c'est à l'État, au moins, de donner de l'eau à sa population, à boire, au moins c'est de l'eau. Maintenant, nous nous débrouillons pour en avoir. On dit que l'État viendra faire passer sa loi. Il n'a qu'à venir. On l'attend. On attend.
Et en effet, cette loi qui encadre les prélèvements d'eau souterraine vient d'être promulguée au Togo. Éric Servat, ce que l'on vient d'entendre est emblématique de ce qui se passe dans de nombreuses villes africaines.
C'est emblématique dans ce sens que, effectivement, l'accès à l'eau potable, ça reste quand même un véritable problème dans bon nombre de villes, dans bon nombre de quartiers de ces villes. Et que ce manque d'infrastructures, effectivement, il pénalise les gens. Et on le ressent d'autant plus que, compte tenu d'un certain nombre de changements climatiques, parfois pour des problèmes de sécurité, les gens quittent les régions dans lesquelles ils ont l'habitude de vivre et ils viennent grossir les bataillons des gens qui vivent dans des situations précaires dans ces grandes villes, avec ce manque d'infrastructures et la nécessité de se débrouiller pour trouver de l'eau au quotidien.
Oui, cette tension sur les ressources, on a l'impression que les ONG s'en rendent compte, mais les États non. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a si peu d'investissements dans ce domaine?
Ça date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Ça fait des années finalement que ce constat est établi. Ça fait des années que ce manque d'investissement, qui est absolument paradoxal au regard de l'importance pour la vie humaine et pour le bon fonctionnement de nos sociétés, donc ça fait des années que cette situation paradoxale est dénoncée. Alors sans doute, peut-être est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de bénéfices à retirer, d'investissements qui seraient mis en place, je ne sais pas exactement. Sans doute aussi, les choses vont-elles trop vite? Mais je pense que Fatimatou aura des réponses de terrain à donner. Mais sans doute, les choses vont-elles trop vite? Et il est difficile de suivre ces modifications importantes. Quand on voit le taux de croissance, par exemple, du contexte urbain, de ces grandes villes qui existent, c'est vrai que pour suivre en matière d'infrastructure, je ne suis pas certain qu'en Europe, on serait capable de suivre, nous non plus, face à ces taux de croissance de démographie urbaine et à la nécessité de mettre en place des infrastructures qui suivraient.
Fatima Toussal.
Bon, je crois que Eric a très bien répondu. Je ne dirais
pas.
J'ai
une bonne note, Eric.
Je ne dirais pas que voilà, les financements sont faibles, mais on est quand même en Afrique et comme on dit, tous les secteurs de développement sont des priorités. Et donc, en ce sens, il y a des arbitrages à faire par l'État. Et après également, il y a parfois le taux de pauvreté à prendre en considération. Est-ce que les populations ont les possibilités de supporter les charges liées aux services d'eau? Et l'autre aspect est lié à l'urbanisation. Aujourd'hui, l'essentiel des populations en Afrique vivent en centre urbain ou bien on tend vers l'Afrique a les taux d'urbanisation les plus élevés. Et donc, face à ce croît démographique, il est très difficile de pouvoir suivre les investissements et ça a une répercussion sur vraiment les investissements qui sont menés dans le secteur et sur le niveau d'accès à l'eau potable parce que les prévisions, la planification ou bien les schémas directeurs qui sont réalisés sur 5 ans, 10 ans, le croît démographique dépasse de loin ces schémas. Et en ce sens, donc, il y a toujours des inégalités d'accès ou bien même quand le service est disponible, la disponibilité du service n'est pas toujours continue et c'est ce qui crée ces situations où les populations eux-mêmes créent les propres conditions pour pouvoir avoir accès à l'eau parce qu'on ne peut pas vivre sans eau.
Sylvie Adoté, la situation n'est pas meilleure en zone rurale où vous travaillez au Bénin?
Tout à fait. Au Bénin, on a encore plus de 60% des communautés, des villages qui sont sans eau et les forages dans ces zones-là sont très rares aussi, malgré tous les efforts que fait le gouvernement pour mettre l'eau à la disposition des communautés. L'accès à l'eau est encore très faible et les populations vont très loin pour la corvée de l'eau.
Ça peut être plusieurs kilomètres.
C'est souvent plusieurs kilomètres. Et du coup, il est très pénible de gérer lorsque ces forages existent, il est très pénible d'assurer la continuité de la disponibilité de l'eau parce que comme a dit Fatmatou, le service après vente, l'entretien de ces forages pose d'énormes problèmes et la rentabilité même de l'ouvrage n'est pas du tout assurée. Parce que s'il faut mettre un fonds pour entretenir les installations, les communautés sont parfois tellement pauvres qu'ils n'arrivent pas à payer le service.
Même si on confie la caisse aux femmes.
Même si on confie la caisse aux femmes, ce n'est pas évident. Donc, la problématique, elle est entière. Elle est entière et aujourd'hui, on se pose d'autres questions. Quelles sont les alternatives, les sources naturelles, comment les traiter pour avoir une disponibilité de l'eau, mais de l'eau de qualité. Donc, c'est beaucoup de contraintes liées à l'eau que nous essayons avec les communautés d'aborder, de gérer.
Oula Mourouni, quelle est la situation en Tunisie?
En Tunisie, en fait, moi, ce qui vraiment je découvre par ce reportage, en fait, de nos voisins, enfin, les conditions de l'approvisionnement en eau, qui va être de plus en plus compliqué. Parce que ce qu'on a trouvé en Tunisie, c'est que toutes les nappes côtières, enfin, les nappes d'approvisionnement, là où on fait les forages pour l'eau potable, elles sont pas loin de la mer, de la côte. Donc, on a des nappes qui sont à 5 km, à 10 km, à quelques mètres. Toutes ces nappes sont devenues salées. Donc, parce que là, vraiment, en Tunisie et toute les pays du Nord-Afrique, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, donc les recherches qu'on a effectuées ont démontré que ces nappes sont devenues salées. Donc, y a des nappes qui avaient les concentrations en fait en sel inférieures à 0,5 grammes par litre dans les années 60. Là, on est à 8 grammes par litre.
Et comment ça s'explique ce phénomène ?
Ça, c'est l'intrusion marine en fait. C'est quand la mer avance, c'est ce qu'on appelle aussi l'érosion côtière. Donc, y a un terme qu'un ami médecin dit, c'est quand la mer phagocyte. La terre, c'est la phagocytose, c'est un phénomène qui est vraiment visible et qui va dégrader la qualité de ces nappes.
Et l'érosion est très forte hein, en Afrique du Nord.
Oui, c'est un schéma qui s'applique aussi au niveau de toutes les zones côtières. En Afrique de l'Ouest, c'est mondial. Mais la relation qui est plus alarmante, parce que moi j'arrive avec un schéma alarmant, et là terrifiant. Si vous me dites que déjà, il n'y a pas beaucoup de puits, et de bonne qualité, et que avec ça, on va additionner une avancée. On a des reculs de plages de 5 mètres par an. Hein. Il y a des zones où on a détecté 20 mètres par an d'intrusion marine.
Au donc Bénin aussi. Hein. Moi, j'ai fait des reportages, ça va jusqu'à 15 mètres par an par endroit.
Oui. Mmh. Oui, dans la zone de Grand Popo, Sémé, toute la côte ouest.
Mmh. Oui. Et au Sénégal aussi, hein, ça recule.
Ouais. Ouais. Oui, le Sénégal fait partie aujourd'hui des pays qui sont considérés parmi les plus vulnérables au changement climatique. C'est dû en effet parce que c'est un pays littoral, côtier, et il y a beaucoup de zones, notamment au niveau de Saint-Louis, Rufusque, où on a eu vraiment des érosions tellement fortes qu'il y a eu des séries de déplacements de population.
Alors, bon, l'érosion côtière, elle est due à la hausse du niveau de la mer et aussi à l'urbanisation autour du littoral avec la construction. C'est majoritairement ça. Hein.
Parce qu'on a des sols bâtis, on n'a plus des dunes, on n'a plus des protections naturelles de la plage face aux vagues, de tempêtes, tout ça. Tout est remplacé par l'urbanisation. Et on a les barrages qui retiennent le sable, on a les digues portuaires. Donc partout, il n'y a plus ce sable qui alimente la plage. Donc, c'est la nature qui est face à l'homme. Et là, qu'est-ce qu'on trouve sur le littoral ? Des pêcheurs, des agriculteurs, des touristes, des espaces de l'économie, en fait. L'investissement, c'était ça, en fait. Et c'est détruit. Là, on n'est plus sur des ressources qui se dégradent, mais des ressources qui disparaissent. On est dans l'ère de disparition.
Et du coup, ça a un impact là aussi sur les mouvements de population et donc sur les migrations.
Absolument. C'est ça en fait qui est aussi étonnant. On a eu l'idée avec l'équipe de chercheurs qui a mené cette étude, donc de mon institut en Tunisie et de l'IRD et de la NASA, l'université aussi South California, de faire la liaison avec le taux des migrations de ces populations qui vivent sur les zones vulnérables. Et on a vu que pendant les 20 dernières années, hein, qu'il y a une explosion de 40%, par exemple, pour la Tunisie et de 200% pour l'Égypte. Donc les zones qui ont eu un recul très important, ça coïncide avec les zones où la population elle a immigré. Par exemple, je vous donne le chiffre, c'est par exemple en Tunisie, pour un mètre carré de plage qui disparaît, on a un migrant tunisien, et pour un mètre carré de plage qui disparaît en Égypte, on a 3 Égyptiens qui immigrent, en fait, qui partent. Donc ça, c'est alarmant, ça. C'est les réfugiés climatiques, et c'est rapide. Et déjà, c'est ce que le dernier rapport de l'IPCC, qui est apparu il y a quelques semaines.
Le GIEC, le groupe intergouvernemental Absolument. Des experts sur l'évolution du climat.
Absolument, et là, on a des chiffres. Donc là, on a des chiffres, mais c'est très rapide. On n'est plus dans la projection de 2050. On est dans le vécu aujourd'hui. Hein. C'est une accélération qui n'a pas été planifiée. Il n'y a pas un système d'alarme pour les populations. Il n'y a pas une estimation de risque, voilà, pour tout ça.
Voilà, et on sent que, en effet, la pression est en train de monter sur les pays. Qu'est-ce que l'on fait face à tout cela? Eh bien, écoutez, on en parle juste après une pause musicale dont on a bien besoin. Une reprise de Aretha Franklin, I Say a Little Prayer par Calypso Rose dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons des enjeux de l'accès à l'eau aujourd'hui, un des thèmes abordés la semaine dernière lors des Montpellier Global des Africa. Nous sommes d'ailleurs à Montpellier pour enregistrer cette émission, bien installée dans les locaux du campus du CIRAD. Éric Servat, on a compris hein, à travers les témoignages de ces femmes qui participent à cette émission que donc la ressource en eau est cruciale. Vous l'avez dit, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis sur ce sujet. Quelles sont les priorités selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, même si bon, on est un peu désespéré pour l'instant avec tout ce qu'on vient d'entendre?
Alors d'abord, ne jamais céder à la désespérance.
Voilà, on va commencer par là. Ah,
ça, c'est un premier principe. Après, ben, la tâche est vaste, effectivement, quand on a entendu mes trois collègues expliquer un certain nombre de choses, Je crois qu'il y a, différents domaines qui sont en, sur lesquels il faut se pencher. Le premier, c'est sans doute, et ça a été d'ailleurs discuté et mis en avant pendant la journée sur l'eau de ces Montpellier Global Days, c'est la nécessité d'avoir l'information, la connaissance de ce qui se passe. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, dans trop de pays et dans trop de pays sur le continent africain, c'est quelque chose qui, je ne vais pas dire qui a disparu, mais en tout cas qui a subi une telle dégradation qu'il est difficile de disposer de l'ensemble des informations qui seraient nécessaires pour pouvoir poser les bons diagnostics au bon moment.
Alors, quand vous parlez d'informations, vous ne parlez pas de ce que nous faisons ici à C'est pas du vent, vous parlez des données, par exemple des pluies, etc. C'est-à-dire qu'avant, on avait des données très fiables et aujourd'hui, on a de moins en moins de données.
Avant, on avait des réseaux d'acquisition de données avec des stations sur le terrain qui avaient avec une densité suffisante de ces stations pour avoir une information qui, sur le plan de la répartition spatiale et du suivi dans le temps, donnait cette information absolument indispensable pour comprendre et évaluer. Une fois qu'on a cette information, on analyse, on évalue, on comprend, on peut modéliser, on peut se projeter, établir des scénarios sur lesquels on va venir greffer des scénarios d'évolution démographique, des scénarios d'urbanisation, des scénarios climatiques. Mais si nous n'avons pas cette donnée de base, c'est très compliqué.
Mais avec votre formidable Centre international de recherche sur l'eau de l'UNESCO, vous ne pouvez pas lancer une campagne de rééquipement? Alors, enfin, pas tout seul, j'imagine. Non, mais
ça demande des moyens qui sont des moyens extrêmement importants. Et il faut
mais
sans
vital,
cesse...
Hein,
oui, c'est vital, je suis d'accord. Et je serais le premier heureux si on pouvait revenir à des niveaux de densité de ces réseaux d'observation tels qu'on a pu la connaître à une époque. Il faut sans cesse sensibiliser aujourd'hui les grands bailleurs de fonds, les grandes structures, la Banque africaine de développement, l'AFD, la Banque mondiale. Il faut vraiment insister sur ce point-là. Alors certes, on met en avant par exemple aujourd'hui les données spatiales. Mais avant que les données spatiales nous donnent le suivi, la densité dont on disposait préalablement, ça va être un petit peu long, ça va être compliqué. Et je crois qu'en plus, les deux se complètent. Voilà, on a besoin des deux. Et on a besoin de revenir à cette information de terrain qui est absolument indispensable.
Voilà, connaître la ressource, déjà, à la base, c'est essentiel. Sylvie Adotte, pour vous, quelle est la priorité aujourd'hui ?
Selon moi, la priorité aujourd'hui, comme a dit tout à l'heure Oula, c'est que nous ne sommes plus dans les prévisions, nous ne sommes plus dans la planification, c'est du concret. Il faut que nous revoyons un peu les stratégies d'intervention.
Vous parlez des conséquences des changements climatiques, là.
Changement climatique, accès à l'eau, tout ça. Il faut aujourd'hui, parallèlement aux informations, aux données spatiales, tout ça, il y a comment les communautés vivent le problème. Donc aujourd'hui, la résolution de ces problèmes doit tenir compte, doit impliquer les communautés, créer un dialogue entre les scientifiques, les communautés à la base, et les écouter et agir avec eux. C'est très important parce que la perception des problèmes, même si le problème est le même, la perception du problème diffère selon les zones géographiques, les cultures. Et il est important que le problème de l'eau aujourd'hui soit traité de manière systémique.
Fatima Toussal, vous allez représenter la jeunesse au Forum mondial de l'eau qui aura lieu à Dakar en mars prochain. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous allez porter comme message? Parce que là, il y en aura des décideurs. Hein.
Exactement. Je crois que le défi principal pour le Forum de Dakar, ce sera vraiment la prise de décision. Parce que comme l'a dit Oula tantôt, avec aujourd'hui tout ce qu'il y a comme enjeu lié au changement climatique par rapport au secteur de l'eau, les projections étaient viser vers 2050. Et là, nous sommes en train de les vivre. Donc, il y a nécessité d'agir et d'agir rapidement. Et nous avons l'horizon des ODD, les objectifs de développement 2030, les objectifs de développement durable en 2030, je veux dire. Et pour nous, Dakar doit être un tremplin pour se relancer dans la trajectoire de ces ODD. Pour rappel, l'ODD 6 porte sur les ressources en eau. Et en ce sens, donc, il faudrait agir, comme je l'ai dit, passer à l'action pour réduire les inégalités. On a vu avec le reportage qui est passé tout à l'heure les différentes situations qui ont été présentées, la vulnérabilité partagée entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Et en ce sens, il faudrait agir. Agir pour une meilleure connaissance des ressources, mais également agir pour une maîtrise de la ressource dans une perspective de durabilité. Et en ce sens, comme je le dis toujours, quand on parle de développement durable, on ne peut pas en parler en oubliant les jeunes. Donc, il faut impliquer les jeunes qui sont les couches qui sont les plus vulnérables aujourd'hui avec les femmes, bien entendu, mais qui également sont les couches vulnérables de demain parce que ce sont leurs ressources de survie demain qui sont compromises. Et nous lançons un appel pour une bonne implication des jeunes en direction de ce forum, mais également pour une prise de décision en faveur du climat, en faveur de la préservation de ces ressources au niveau des autorités.
Oula Amrouni, pour vous les priorités?
Je vais lancer la note positive après toute cette...
Ah oui, allez-y, faites-nous du bien.
Après le tsunami qu'on a déclenché. En fait, nous les scientifiques, après qu'on a trouvé des résultats et des données qui vont alimenter toute la communauté, hein, on est lancé vers un projet de valorisation. On va partir sur terrain avec la communauté. Donc nous, on a un chantier qui s'appelle le Medjerda, c'est le fleuve de la Tunisie. Et là, dans cette zone, il y a une communauté qui souffre de tout ce qui arrive. Donc on a trouvé de l'argent dans le cadre d'un programme de valorisation d'innovation mené par l'FSPI et l'IRD pour aller vers la communauté, les accompagner, se faire partager les solutions. Parce qu'il n'y a pas mieux que les agriculteurs pour nous enrichir de leurs moyens de lutte. Il n'y a pas mieux que les pêcheurs de nous enrichir de leur savoir-faire quotidien que nous, on a simulé, détecté tout ça. Et là, c'est 2 années de terrain avec la communauté pour implanter des solutions basées sur la nature. Ça, c'est ma devise. Moi, je suis toujours, j'adhère à que la nature, je l'identifie comme une femme qui a besoin de s'auto-cicatriser. Il faut juste l'accompagner, la comprendre et puis pas trop forcer sur l'enrochement, les protections lourdes. Ça, on l'a fait. Sur tous les littoraux, ça a foiré. Là, il faut faire vraiment des protections douces. Protéger les dunes, les gagnes. Et ça, c'est des techniques ancestrales que cette communauté sur terrain nous a un petit peu données. Nous, on a validé avec la science et on va partir avec ce genre de projet pour, parce que dès qu'on cicatrise une partie, la nature, elle se remet en marche. Donc, il y a de l'espoir pour remédier avant que ça soit mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Donc, j'espère que, voilà, donc, c'est parti pour la cicatrisation.
C'est parti pour la cicatrisation voilà. En Tunisie et on espère beaucoup plus largement. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio sur le campus du CIRAD à Montpellier pour la réalisation de cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous le savons, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait bien plaisir. Continuez à nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr. Une semaine d'actualité.